Ce capitaine d'armes était un bonhomme qui n'avait pas, comme on dit, inventé la poudre. On lui avait fait faire serment à Dunkerque de ne point déclarer, ni à nous, ni à qui que ce soit, l'endroit où il avait ordre de nous rendre. La crainte que quelque partie de la garnison d'air qui faisait des courses jusqu'à Calais et à Boulogne ne nous enlevât avait fait prendre cette précaution. Or, un jour, étant en chemin, ce capitaine qui allait toujours à cheval s'approcha du chariot où j'étais et lia conversation avec moi. En parlant de choses indifférentes, je lui demandai le lieu de notre destination. Voyant qu'il faisait le réservé, je lui dis que cela était inutile, puisque je le savais aussi bien que lui. Il me défia de le lui dire, ce que je fis sur le champ, en lui récitant ce que j'avais vu et lu à la fin de la route qu'il m'avait montrée avant de débarquer à Calais. Ce bonhomme, n'ayant point fait attention au coup d'œil que j'avais jeté sur le dernier article de sa route, lorsqu'il me l'avait montré, fut si étonné de me voir aussi savant que lui sur ce sujet, n'y ayant personne de sa troupe qui sût son secret, qu'il me demanda, naïvement, si j'étais sorcier ou prophète. Je lui dis que j'étais trop honnête homme pour être sorcier, et trop grand pêcheur pour être prophète. D'ailleurs, lui dis-je, il n'y a personne de nous qui n'en sache autant que moi à cet égard, et vous faites un grand secret d'une chose qui est publique parmi nous. Je le raillais un peu sur sa prétendue circonspection, et je remarquai, par les précautions qu'il prenait tous les jours, qu'il croyait sérieusement qu'il y avait en nous du surnaturel. Nous n'eûmes cependant pas lieu de nous plaindre de lui pendant la route, étant au contraire fort exact à nous faire donner l'étape à chaque logement, comme aux soldats de recrues. Mais ne pouvant agir outre ses ordres, il ne pouvait nous donner pour logement que des prisons ou des écuries s'il ne trouvait pas de prison dans les endroits où nous arrivions. Enfin, nous parvînmes au Havre de Grâce, où nous eûmes un logement plus distingué et plus commode que ceux que nous avions eus sur la route. Il est bon de savoir que dans cette ville, il y a beaucoup de nouveaux convertis qui, malgré leur chute forcée, sont toujours fort zélés pour la religion réformée. Ces messieurs, prévenus de notre arrivée, et sachant que nous devions être remis à l'intendant de la marine, furent chez lui pour le prier d'avoir quelques égards pour nous, lui faisant considérer que ces pauvres enchaînés avaient été si devant leurs frères de foi, qu'ils n'avaient commis d'autre crime que d'avoir témoigné de la fermeté et de la constance pour la religion de leur père, ajoutant que s'ils voulaient avoir la bonté de les bien traiter, ils lui en auraient beaucoup d'obligations, et qu'ils répondaient sur leur tête que pas un de nous n'abuserait pour s'évader du soulagement qu'ils voudraient nous procurer. Comme ceux qui avaient été chargés de cette espèce de députation étaient les plus riches négociants de la ville, l'intendant leur répondit fort gracieusement qu'à leur considération, il nous ferait traiter le mieux qu'il lui serait possible. « J'ai ordre de la cour, dit-il, de les faire mettre en lieu de sûreté. Ces ordres ne portant pas que ce soit en prison, je ferai en sorte de leur faire donner un logement plus commode. Et comme la cour m'ordonne simplement de leur faire donner du pain et des fèves, vous pouvez compter qu'ils en auront du même que celui que l'on sert sur ma table. » Quant au reste, vous aurez toute liberté de les voir et de les assister. Les choses étaient dans ces heureuses dispositions lorsque nous arrivâmes au Havre de Grâce. On nous fit descendre devant l'arsenal du roi, où l'intendant nous avait fait préparer une grande chambre appartenant à la corderie et y avait fait mettre des paillasses, matelas et couvertures pour coucher. En entrant dans cette chambre qui était de plein pied, nous y trouvâmes l'intendant et nos protecteurs qui étaient, comme je l'ai déjà dit, de notre religion. Ces messieurs nous firent de grands embrassements, les larmes aux yeux, sans craindre de se commettre en la présence de l'intendant qui en parut tout attendri. Le beau de l'affaire est que, pendant que ces messieurs nous caressaient, les commis de la douane arrivèrent et demandèrent à l'intendant la permission de nous fouiller. Il la leur accorda en haussant les épaules et leur dit que, selon les apparences, ils prendraient plus de poux que de butin. Cependant, ils nous fouillèrent partout et, comme on peut juger, sans rien trouver. Mais, voyant parmi nos hardes une petite caisse fermée à clé où nous avions tous nos livres de dévotion, ils demandèrent à la visiter. J'avais la clé de cette caisse et je ne voulais pas la donner, craignant le feu pour notre petite bibliothèque. L'intendant, en apercevant, me dit « Mon ami, donnez cette clé sans rien craindre, ces messieurs doivent faire leur devoir. » L'ayant donnée en tremblant, un des commis l'ouvrit et ne voyant que des livres, il s'écria « Voici la bibliothèque de Calvin, au feu, au feu !» Ce que voyant l'intendant, il lui dit « Coquin, de quoi t'ingères-tu? Fais ton devoir et ne passe pas outre ou je t'apprendrai à chercher ce que tu dois chercher. » Le commis ne demanda pas son reste, referma la caisse et passa la porte. Dès que nous fûmes installés dans notre nouvelle habitation, l'on nous ôta la grande chaîne qui nous tenait tous ensemble, nous laissant seulement celle qui nous accouplait deux à deux. L'intendant était tellement prévenu en notre faveur qu'il eut l'attention de nous demander si nous étions contents de nos gardes. Nous lui dîmes que nous n'avions reçu d'eux pendant la route que tout le bon traitement qu'ils avaient pu nous donner. « Eh bien, dit-il, je vous les laisse. » Et en même temps, établit leur corps de garde dans une chambre qui était vis-à-vis la nôtre et nous fit apporter du pain de sa table, nous disant que c'était là le pain d'ammunition qui nous destinait. Nos protecteurs lui dirent que, dorénavant, avec sa permission, il prendrait soin de nous fournir la nourriture et lui demandèrent avec instance qu'il leur fût permis de nous venir voir de temps en temps. Là-dessus, l'intendant appela le capitaine d'armes et lui ordonna de laisser entrer tous les jours dans notre chambre indifféremment tous ceux qui se présenteraient depuis 9h du matin jusqu'à 8h du soir et de n'empêcher aucun de nos exercices de piété. Le capitaine d'armes se conforma à ces ordres et dès lors notre chambre ne désemplissait pas de personnes de tout sexe et de tout âge. Nous faisions la prière soir et matin et après avoir lu de bons sermons que nous avions avec nous, nous chantions des psaumes. De sorte que notre prison n'avait pas mal l'air d'une petite église. On n'entendait que les pleurs et les sanglots de ces bonnes gens qui nous venaient voir et qui ne nous quittaient presque plus. En voyant les chaînes dont nous étions chargés et notre résignation à les porter, ils se reprochaient leur faiblesse et se plaignaient de n'avoir pas résisté jusqu'à la mort aux maux que leur avait fait souffrir ou aux charmes dont on s'était servi pour les faire renoncer à la vraie religion. Hélas, je puis dire que c'était plutôt la vue de notre misère qui les attendrissait. Ou pour parler plus juste encore, que c'était plus les cris de leur propre conscience que ce ne pouvait être nos exhortations et nos prédications, car nous n'étions pas appelés à un si digne ministère et nous n'étions nullement capables de l'exercer. La conduite de ces nouveaux convertis fait bien connaître que l'Église romaine, au lieu de convertir, ne fait que de véritables hypocrites. Le zèle de nos faibles frères à nous venir visiter fut cependant cause que, dès le lendemain de notre arrivée au Havre de Grâce, toutes les églises de cette ville, et surtout la paroissiale, se trouvèrent vides de nouveaux convertis, quelques prières et quelques menaces qui put leur faire le curé qui s'en plaignit à l'intendant. Mais ce dernier se contenta de lui répondre qu'il ne pouvait forcer les consciences et qu'il valait mieux un hérétique déclaré qu'un hypocrite caché, que cette occasion procurait ce bien que désormais on pouvait distinguer au Havre les bons catholiques d'avec ceux qui ne l'étaient pas. Ces raisons, toutes valables qu'elles étaient, ne satisfirent point ce curé qui venait quelquefois nous voir et trouvait toujours notre chambre pleine de ces nouveaux prosélytes qui ne craignaient pas de lui dire « Voilà, monsieur le curé, de braves gens, et ceux-là en nous désignant, de bons chrétiens qui ont eu plus de fermeté que nous. On peut juger si de pareils discours devaient plaire à ce curé. » Personne ne pouvait approfondir quelle était la politique de la cour de nous avoir fait transporter au Havre de Grâce. Plusieurs pensaient que c'était pour nous envoyer en Amérique, et j'ai toujours cru que c'était le premier dessein des ministres. Car si leur première résolution eût été de nous envoyer à Paris pour nous joindre à la chaîne des galériens, à quoi servait-il de nous mettre hors de route et de nous faire conduire au Havre, qui est aussi éloigné de la capitale que Dunkerque? C'était nous faire faire le double de chemin, puisque de Dunkerque à Paris, il y a aussi loin que de Dunkerque au Havre. Il est à présumer que le scandale que nous causions aux catholiques de cette dernière ville est ce qui fit changer de sentiment à la cour. Il n'y eut pas de moyen que d'employer le curé du Havre pour nous faire partir de cette ville. Nous avons su depuis qu'il avait écrit en cour que notre séjour avait beaucoup dérangé les nouveaux convertis qui, depuis notre arrivée, avaient déserté son église. Il n'en fallut pas davantage pour engager les ministres à envoyer ordre à l'intendant de nous faire partir le plus secrètement que faire se pourrait, de peur d'exciter quelques soulèvements. Certes, il n'était pas besoin de prendre ces précautions. Les réformés du Havre n'étaient point dans l'intention de nous enlever de force. Et pour nous autres, nous nous laissions mener comme des moutons à la boucherie. Mais le curé de la ville nous avait dépeint les uns et les autres avec des couleurs si noires que la cour ne pouvait qu'en prendre ombrage, avant que de détailler ce second enlèvement, qui ne se fit pas moins mystérieusement que celui de Dunkerque. Je vais régaler mon lecteur d'un petit incident assez surprenant par sa singularité, et qui acheva de confirmer le capitaine d'armes dans l'idée que nous étions des prophètes.